Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous dans 30 minutes, la Libre Antenne. Nous sommes vendredi, vous commenterez l'actualité de votre choix. Vous êtes encore très nombreux à nous interpeller sur l'élection présidentielle en Guinée, avec notamment la polémique suscitée par la décision de l'opposant Seloud Alain Diallo de ne pas boycotter le scrutin, des réactions sur les concertations nationales qui se tiennent en ce moment à Bamako pour organiser la transition au Mali. Certains d'entre vous souhaitent témoigner sur les conséquences des pluies diluviennes qui frappent l'Afrique de l'Ouest et une partie de l'Afrique centrale. Évidemment, nous vous donnerons la parole. Voilà en tout cas les trois sujets qui suscitent le plus de commentaires au Standard et sur nos réseaux sociaux. Mais d'abord, durant les 20 prochaines minutes, je vous propose de dresser un état des lieux de la pandémie de Covid-19. Ce vendredi 11 septembre, cela fait 6 mois que l'OMS a déclaré la vague épidémique de Covid-19 comme pandémie. 6 mois que ce virus fait partie de notre vie. La barre des 900 000 morts dans le monde a été franchie, presque plus aucun pays n'est épargné. L'occasion donc, à travers vos questions et vos témoignages, de faire le point sur ce que l'on sait à ce stade et ce qu'on ne sait pas. Bonjour Richard Migaud.
Bonjour Juan Gomez.
Merci d'accepter de dialoguer avec les auditeurs de RFI durant les 20 prochaines minutes. Vous êtes le coordinateur des programmes d'immunisation et de vaccination pour l'Organisation mondiale de la santé en Afrique, l'OMS, confrontée à la plus grave crise sanitaire de son histoire. L'OMS qui, ces derniers mois, a été sous le feu des critiques. Vous aurez l'occasion, Richard Migaud, de vous expliquer. Mais d'abord, je vous propose de passer tout de suite au Standard avec ce témoignage, celui de Lassana, il est à Bamako. Bonjour Lassana.
Bonjour, bon retour au boulot.
Merci Lassana de nous avoir contacté. Vous faites partie des nombreux auditeurs qui nous ont contactés ces derniers jours pour nous faire part de votre scepticisme. Vous faites partie de ceux qui doutent encore à ce jour de l'existence réelle de cette maladie.
Oui, Juan, pour nous quand même, pour la plupart des Maliens, c'est de la propagande. D'abord, aux premières nouvelles du Covid, moi aussi j'avais acheté beaucoup de masques et de gants. Mais après un mois, j'ai réalisé que je gaspillais mon argent pour rien, parce que je n'ai jamais vu une personne atteinte de cette maladie et personne ne m'a jamais dit qu'il a vu quelqu'un malade du Covid. On ne voit les malades du Covid que dans les médias. Mmh.
Pourtant, officiellement dans votre pays, j'ai regardé les chiffres avant de commencer l'émission, en sachant que vous seriez avec nous, 127 décès au Mali, près de 3000 cas recensés.
Effectivement, voilà. C'est dans les médias seulement qu'on le voit, mais personne ne le voit ici à Bamako. Personne.
Et donc, du coup, Lassana, vous achetiez des masques dans un premier temps, ça signifie qu'aujourd'hui, vous ne portez plus de masques, vous ne vous protégez plus et vous ne protégez plus les autres, du coup.
Je ne me protège pas et personne ne se protège.
Ouais.
Par jour, vous pouvez voir, si le nombre, par exemple, dépasse 1000, sur 1000 personnes, si une seule personne porte de masque, ou bien si une seule personne se protège, ça veut dire que personne ne se protège.
Ouais.
Les gens se posent la question, est-ce que la maladie même existe réellement au Mali?
Ouais. Et pas qu'au Mali, hein. J'ai sous les yeux le commentaire de Mamadou, il nous envoyait un petit message sur WhatsApp, il est à Dakar. Je ne crois plus à l'existence de cette maladie au Sénégal, personne ne respecte les gestes barrières. Ahmed nous a écrit de Niamey au Niger, il nous dit que sur place la population ne croit pas à cette pandémie. Nous demandons aux autorités des preuves palpables. Et puis ce commentaire de Joseph qui nous dit « Pour les uns, cette histoire de Covid, c'est de la politique. Pour les autres, c'est une maladie de blanc. » Richard Migaud, comment réagissez-vous à ces réactions qui sont réelles? On les reçoit, on les lit, on les entend. Qu'avez-vous envie de répondre à ces auditeurs?
Merci Juan et bonjour aux auditeurs de RFI. En effet, nous écoutons ce genre de réactions un peu partout. Mais malheureusement, comme vous l'avez rappelé en début d'émission, pandémie de Covid est une réalité. Le monde aujourd'hui a reporté plus de 28 millions des cas et vous avez parlé de 900 000 décès franchis dans le monde. Mmh. En Afrique, nous avons plus d'un million, 1,3 million de cas qui ont déjà été rapportés et environ presque 32 000 décès rapportés en Afrique. Donc la pandémie est une réalité dans nos différents pays. C'est dommage que nous puissions entendre ce genre de réaction parce que nous qui suivons les statistiques au jour le jour, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les différents pays, c'est une vraie crise que les pays sont en train de vivre et une vraie tragédie en fait pour les familles qui ont perdu leurs membres.
Ouais. Vous dites que c'est dommage d'entendre ce type de témoignage. Encore une fois, on l'entend dans cette émission parce qu'on nous les recevons et ils sont vrais, ils sont réels, on n'invente rien. Mais Richard Amihigo, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'interroger aussi sur la façon de communiquer? Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de pédagogie? Nous, en tant que médias, on a peut-être notre part de responsabilité, mais vous, en tant qu'Organisation Mondiale de la Santé, vous devez peut-être assumer votre part de responsabilité aussi.
Oui, je voudrais ici remercier RFI et vos auditeurs parce que vous nous donnez également l'opportunité de communiquer et surtout de sensibiliser la communauté par rapport à cette maladie. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités nationales pour réellement attirer l'attention de la communauté sur cette maladie qui est extrêmement grave. Mais le fait que la majorité des cas qui attrapent la maladie sont asymptomatiques, c'est que beaucoup de gens continuent à douter. Et les autres cas qui sont bénins, nous n'avons pas beaucoup de décès. Mmh. Mais n'empêche que ça reste une vraie tragédie dans notre région. Nous sommes en train de perdre des vies. L'économie est à l'arrêt dans la plupart des pays. Et je pense que les mesures de prévention s'imposent pour que nous puissions effectivement non seulement redémarrer un semblant de normalité dans la vie de tous les jours, mais également que les gens puissent être protégés et qu'on puisse sauver des vies.
Des questions standards. Macky d'abord, il est en Guinée. Bonjour Macky.
Oui Juan, bonjour et bonjour à tous.
Nous vous écoutons avec Richard Amihigo de l'OMS.
Merci Juan. Alors, l'OMS a émis à plusieurs reprises cette préoccupation par rapport à l'augmentation des contaminations en Afrique. Alors, qu'en pense l'OMS aujourd'hui? Et est-ce que le pic de la pandémie reste toujours à venir, Juan?
Ah, alors, Richard Amihigo, on se souvient des discours alarmistes de l'OMS sur l'Afrique et notamment de cette première déclaration, on était mi-mars, le patron de l'OMS qui déclarait « l'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit se préparer au pire ». Heureusement, les faits vous ont contredit. Quand je dis vous, c'est l'OMS, Richard Amihigo. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, peut-on dire que le pic a été atteint ou le pire reste à venir pour le continent africain?
Je dirais plutôt que l'Afrique a plutôt bien réagi. C'est pas que les faits nous ont contredit. L'Afrique a plutôt répondu à l'appel de l'OMS et a pris les mesures qui s'imposaient. Il faut rappeler ici que dès le mois de mars, la plupart des pays en Afrique ont fermé leurs frontières, ont suspendu les vols aériens, ont fermé les endroits de regroupement. Et je pense que ces différentes stratégies qui ont été prises dans la plupart des pays, alors qu'il n'y avait que très très peu de cas, ont payé réellement. Aujourd'hui, nous voyons effectivement que le nombre de cas en Afrique est en train de baisser par rapport aux statistiques que nous voyons aujourd'hui. Le pays qui a rapporté le plus de cas, l'Afrique du Sud, environ plus de 50% des cas en Afrique.
Mais 625 000 cas, rien que pour l'Afrique du Sud.
Exactement, déjà atteint son pic et nous voyons maintenant une diminution significative de nombre de cas en Afrique du Sud et cette tendance est également vue partout.
Ça veut dire quoi? Bon, alors vous restez prudent, mais les auditeurs veulent entendre des informations concrètes. Je sais que c'est compliqué, c'est difficile, on en apprend tous les jours sur le Covid-19. Est-ce que le pire est passé ou il est à venir pour le continent africain?
Disons que les données actuelles nous montrent que nous avons atteint certains pays un pic. Mais je voudrais ici encore une fois rappeler que l'Afrique est un bloc, mais à l'intérieur de l'Afrique, nous avons des situations dans certains pays qui aujourd'hui encore portent à se poser des questions. Des pays qui ont vu leur nombre de cas repartir à la hausse. C'est le cas par exemple de l'Éthiopie, de la Namibie, de Cap-Vert, Mozambique, l'Ouganda, ou plutôt c'est l'effet inverse, où les cas ont redémarré et ont augmenté, continué à augmenter. Donc, je crois que la prudence dont l'OMS parle, et d'ailleurs, corroborée par la plupart des faits sur le terrain, s'impose. Ce qui est très, très rassurant, c'est qu'on traverse dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, on voit les gens porter des masques. Oui. Je suis à Brazzaville, ici, dans la rue, c'est rafraîchissant de voir combien les gens respectent cette mesure barrière. Mm-hmm. Et je pense que ces gens de gestes sauvent des vies et protègent réellement la propagation de la maladie.
Repassons au standard. Il y a beaucoup de questions, d'autant que voilà, on a un responsable de l'OMS Afrique en direct sur RFI, donc les auditeurs ont envie de dialoguer avec vous, de vous poser des questions. Khalilou, bonjour.
Bonjour, Rouhani, bonjour à tous les auditeurs.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Tout à l'heure, vous avez parlé de l'Afrique. Alors, pourquoi ce continent est le moins touché ? Pourra-t-il rester en dehors de la vague de contamination qui touche les autres continents ?
Ouais. Sait-on pourquoi, Richard Mihigo, la maladie progresse finalement plus lentement en Afrique qu'en Europe ou aux États-Unis ?
Plusieurs raisons ont été avancées à cela. Premièrement, comme je l'ai dit au départ, l'Afrique a plutôt très bien réagi au début de cette pandémie par rapport à ce que certains prétendent. Je l'ai dit, les mesures qui ont été prises dès le mois de février, dès le mois de mars, ont réellement eu un effet positif sur la transmission du virus.
Mais ceux qui disent par exemple que le continent est un continent jeune, le facteur jeunesse, est-ce que ça a pu compter puisque l'Afrique est la région la plus jeune de la planète, la plus jeune du monde?
Voilà, je voulais exactement arriver à ce point. Le fait est effectivement que l'Afrique a une population plutôt jeune a également été un facteur assez déterminant parce que bien que cette catégorie de la population ait également été infectée, nous n'avons pas vu d'excès de mortalité dans cette tranche d'âge où presque 90% ou même plus des personnes jeunes qui ont été atteintes n'ont pas fait de maladie ou ont fait une forme extrêmement bénigne de la maladie, et ce qui a réellement contribué à diminuer la propagation. Un autre facteur important qu'il faudra souligner, c'est la ruralité ou l'aspect démographique en Afrique, où la majorité de la population encore vit dans les campagnes, où les moyens de communication sont pas très développés, ce qui fait que la maladie, réellement, telle qu'on a vu dans l'Occident, ne s'est pas propagée rapidement. Et les mesures qui ont été prises ont pu quand même avoir des effets.
Richard Mihigo, je vais vous demander des réponses un tout petit peu plus courtes. C'est intéressant, c'est passionnant, évidemment, on a envie de comprendre, mais il y a beaucoup d'auditeurs et on est pris par le temps. Tankwano nous appelle de Fadangourma, c'est à l'ouest du Burkina Faso. Bonjour Tankwano.
Bonjour monsieur.
Excusez-moi, j'ai un peu écorché votre prénom, nous vous écoutons.
Ma question est la suivante. Plusieurs équipes travaillent à l'élaboration d'un vaccin. Où en est la recherche ?
Alors, où en est la recherche ? Effectivement, il y a une véritable course en ce moment pour produire le premier vaccin contre le Covid-19. En quelques mots, que pouvez-vous nous dire, Richard Mihigo ?
La recherche avance à grands pas. La course contre le vaccin est lancée. Nous avons aujourd'hui 9 candidats vaccins qui sont rentrés dans la dernière phase d'essais cliniques. Donc, nous espérons réellement, tout en gardant la prudence nécessaire, que ces candidats vaccins pourront bientôt nous donner des résultats.
Mais bientôt, je sais que vous n'avez pas la boule de cristal, Richard Mihigo. On nous annonçait, il y a quelques mois, probablement un vaccin pour la fin de cette année. Maintenant, j'ai lu encore, en préparant cette émission, que certains disent pas de vaccin avant le courant de l'année prochaine.
Effectivement, il y a une chose d'avoir le vaccin les résultats finalisés, mais la production du vaccin va prendre du temps. C'est pourquoi les estimations aujourd'hui nous emmènent au premier trimestre de l'année prochaine, parce qu'il faudra non seulement avoir un vaccin qui est efficace, mais il faudra en plus le produire à grande échelle pour les distribuer de manière globalement au niveau du monde.
Et je pense à tous ceux qui nous écoutent en ce moment sur le continent africain et qui entendent dans nos journaux que les États-Unis, l'Union européenne réservent ici et là des vaccins auprès des laboratoires. Quid de l'Afrique? Puisque vous dites, ça va prendre du temps de produire des vaccins. Est-ce que l'Afrique aura des vaccins en quantité suffisante?
L'Afrique aura des vaccins. Il y a l'initiative COVAX qui a été lancée par l'OMS, Gavi et CEPI, qui va mettre à disposition des pays africains les vaccins à hauteur de 20% de la population au moins dans un premier temps. Cette initiative vise à produire, à procurer environ 2 milliards de doses de vaccins qui pourraient être distribuées dans 92 pays à faible revenu, incluant les pays africains, 46 pays africains. D'accord. Donc l'Afrique ne sera pas mise de côté.
Et elle ne sera pas exclue grâce à ce dispositif mondial appelé COVAX. Jacques, bonjour.
Oui, bonjour RFI, bonjour Anne-Cécile Bras.
Ah ben, on salue Anne-Cécile Bras, c'est pas du vent, qu'on retrouve évidemment un peu plus tard dans la journée. Jacques, vous êtes au Togo, nous vous écoutons.
Oui, à propos de ce coronavirus, j'aimerais savoir si le vaccin est la seule piste de résolution du virus et les remèdes locaux sur le modèle du Covid organique de Madagascar sont-elles une solution envisagée par l'Organisation mondiale de la santé?
Oui, autrement dit, vous voulez savoir si tous les espoirs reposent uniquement sur un vaccin donc élaboré, fabriqué par un laboratoire occidental, ou si peut-être le traitement ou la solution peut venir de la médecine traditionnelle, de la pharmacopée africaine, c'est bien ça Jacques? Richard Migaud.
Oui, le vaccin certainement aura un rôle important à jouer dans la prévention et surtout le retour à la normale, mais le vaccin ne va pas résoudre tous les problèmes. Comme on l'a dit, le vaccin, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit administré à un grand nombre de gens, et actuellement il n'y en aura pas assez pour tout le monde dans un proche avenir. Donc il sera encore nécessaire de continuer les mesures de prévention et la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle a un rôle important à jouer là-dedans. Il y a des recherches qui se font en Afrique et nous espérons que nous aurons des pistes intéressantes dans ce domaine.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, Richard Migaud, l'auditeur parlait d'Artemisia, cette plante qui a permis aux Malgaches de concevoir ce remède de Covid organique. Pour l'instant, aucun remède traditionnel africain n'a été concluant.
En tout cas, pour le moment, nous n'avons aucune donnée qui nous montre qu'il y ait eu, jusqu'à aujourd'hui, un remède qui ait eu un effet positif sur la maladie.
Rapidement, je me fais le porte-parole, je suis désolé, mais le temps que je l'accueille, etc., on perd du temps et la question est importante. Il y a Patient, qui est en RDC, qui nous dit « 6 mois après le début de la pandémie, les scientifiques sont encore indécis sur le mode de transmission du virus. On entend beaucoup parler de contamination par l'air. Qu'en est-il ?»
Le mode de contamination est connu. Hein. Dès le début, on parle de la contamination par voie aérienne à travers les gouttelettes, comme on le sait, ou les postillons. Il y a eu, bien entendu, dernièrement, la possibilité qu'il y ait une transmission par voie aérosol, notamment lorsque les personnes se trouvent dans des endroits confinés. Il existe des études actuellement pour confirmer cette théorie pourrait être éventuellement probable. Et d'ailleurs,
mais ça veut dire, attendez, parlons français facile, ça veut dire qu'on peut contracter le virus en respirant l'air ambiant si on est dans un endroit clos?
Effectivement, si on est dans un endroit clos et qui est quelqu'un qui tousse par aérosol, c'est-à-dire que cette possibilité théoriquement existe, et c'est ce que je dis à beaucoup d'études actuellement pour la confirmer. En dehors, bien entendu, de la transmission classique par les postillons qui peuvent être dégagés par une personne lorsqu'elle tousse, lorsqu'elle parle, que nous connaissons de manière traditionnelle.
D'où l'intérêt de porter un masque et respecter les distances, 1,5 mètre, 2 mètres, si possible, bien évidemment. Richard Migaud, le temps est passé extrêmement vite. Merci infiniment d'avoir pris quelques minutes ce matin, 20 minutes en tout cas, pour dialoguer avec les auditeurs de RFI. Bonne journée et à bientôt, je l'espère, dans l'émission.